Phare FM Lyon Dauphiné 107.
L'invité.
Ancienne journaliste Mao Herman est aujourd'hui engagée auprès de l'association LPO Agir pour la biodiversité. Avec son mari, elle a co-rédigé le livre notamment Comprendre et vivre l'écologie 52 semaines avec Laudato Si aux éditions de l'Emmanuel. C'est peu dire que Mao est une chrétienne lyonnaise engagée en faveur de la biodiversité. Alors à l'occasion de la journée mondiale pour le droit des femmes dont le thème est cette année la reconnaissance de la contribution des femmes face au changement climatique, elle est l'invitée de Phare FM Lyon Dauphiné. Bonjour Mao.
Bonjour Anaïs.
Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre engagement en faveur de cette biodiversité. Vous dissociez d'ailleurs bien biodiversité et climat, bien que les deux traitent de l'écologie. Qu'est-ce que c'est pour vous la biodiversité ?
Alors la biodiversité, c'est tout d'abord la diversité des espèces vivantes, quel que soit le milieu dans lequel on la trouve. C'est-à-dire qu'on peut trouver une diversité d'espèces vivantes dans un milieu petit comme une cuillère à café de sol forestier. La biodiversité peut aussi être comprise à l'échelle du même sol forestier où elle sera forcément beaucoup plus vaste. Mais la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des espèces vivantes à la surface du globe. Et en fait, il y a deux notions clés dans biodiversité, peut-être même trois. La diversité, les milieux, parce que toutes les espèces ne se répartissent pas dans les mêmes milieux. Et puis, il y a aussi la notion d'interaction, c'est-à-dire que des milieux qui sont en apparence à vue humaine séparés, en fait, interagissent entre eux d'une manière ou d'une autre. Les espèces interagissent entre elles dans ces milieux. Et tout ça est le résultat d'un long processus d'adaptation, de cohabitation.
Pourquoi est-ce que vous aimez tant ça, la biodiversité ?
C'est cette notion de diversité, justement, de multitude d'espèces. Je vois deux dimensions. Il y a la dimension scientifique, bien sûr, c'est-à-dire que pour que l'humanité puisse vivre sur Terre, où nous sommes dépendants d'une biodiversité en bon état, c'est-à-dire d'une multitude d'espèces vivantes. Et justement, se dire qu'on n'a pas besoin uniquement de deux ou trois espèces généralistes ou même d'une petite dizaine d'espèces généralistes, mais que ces milliers d'espèces que nous ne connaissons pas toutes sont nécessaires à la vie de l'homme sur Terre, ça montre la complexité du monde dans lequel nous vivons. Et ce qui est très beau aussi, c'est que du coup, c'est une source d'émerveillement. Quand on fait des inventaires sur le terrain, par exemple pour les insectes, il y a qu'à se baisser et on voit la diversité des couleurs d'insectes. Pour moi, c'est quelque chose esthétiquement que je trouve très beau. Et il y a aussi cette dimension esthétique, elle a une dimension plus spirituelle pour moi en tant que chrétienne. C'est-à-dire que je m'émerveille toujours devant les deux premiers chapitres de la Genèse où on a les deux récits de la création, avec le premier chapitre où Dieu crée chaque espèce selon son espèce. Il y a déjà un projet, il n'y a pas une masse informe d'un côté qui serait tout ce qui n'est pas humain et de l'autre l'homme. Non, il y a des êtres vivants qui ont leur spécificité chacune aux yeux de Dieu. D'ailleurs, dans le deuxième chapitre de la Genèse, ce qui m'émerveille aussi, c'est que quand Dieu cherche une compagne à Adam, il commence par faire défiler toutes les espèces vivantes devant lui. Alors bien sûr, il ne trouve pas cette compagne des espèces vivantes, mais néanmoins, il demande à l'homme, en Adam, de les nommer chacune d'entre elles. Ça veut dire qu'il les fait exister, puisque dans la tradition juive, nommer, c'est faire exister. Donc Dieu demande à l'homme de reconnaître toute la diversité des créatures qu'il a créées, et cette diversité est régulièrement célébrée dans la Bible. Du coup, pour moi en tant que chrétienne, les données de la science, ce qu'on peut voir sur le terrain de la science et ce que nous dit la Bible se rejoignent. Et je trouve que dans la biodiversité, ça se rejoint de manière assez fabuleuse.
Comment expliquer que la biodiversité soit davantage laissée de côté par rapport aux problématiques climatiques, déjà pas forcément toujours très bien traitées non plus ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'on ne voit pas bien, en fait, pourquoi la biodiversité nous est essentielle. Si j'ose dire, quand on parle de climat, c'est assez facile de le voir. Chaque été, on se rend compte qu'il fait de plus en plus chaud. On se rend compte aussi que l'hiver n'est plus le même qu'il y a 10 ans. Donc, en fait, les effets du climat, on commence déjà à les voir. On se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus, par exemple, d'épisodes cévenols ou méditerranéens, de précipitations qui autrefois étaient rares avec les inondations qu'elles entraînent. Tout cela, ça commence à faire partie du quotidien. Mais la biodiversité, en fait, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est un manque d'éducation, je ne vais pas me poser en donneuse de leçons, mais le fait est qu'il y a encore trop souvent cette conception selon laquelle c'est de l'environnement et c'est pas nous. Et le terme environnement, à cet égard, est assez révélateur. Il semble vouloir dire que ça nous entoure, mais qu'on n'est pas en interaction, et que finalement, il y a d'un côté l'homme et de l'autre l'environnement. Et je pense que si on se rendait mieux compte des services qu'on doit à la biodiversité du fait qu'on a besoin de toutes ces espèces, qu'on est inséré dans un système et que sans elles on ne peut pas vivre, on y serait beaucoup plus sensible. Mais ça, malheureusement, à part faire de l'éducation au sens noble du terme à l'environnement, à part expliquer, c'est quelque chose d'assez difficile à faire comprendre parce que, comme je vous le disais, on ne le voit pas bien. On ne s'en rend pas compte, tout simplement.
Pour vous, c'est un drame qui est en train de se passer. Vous dites que la biodiversité, c'est l'autre effondrement écologique qui met l'humanité en danger. Pourquoi ?
Tout simplement parce que sans les services rendus par la biodiversité, l'homme ne peut pas vivre. Or, ces services sont estimés par les économistes, alors il y a plusieurs estimations, mais en gros, pour donner une échelle, annuellement, c'est de l'ordre d'entre 1,5 PIB mondial et 1 ou 2 PIB mondial. Ça veut dire que les services rendus par les écosystèmes, chaque année, sont de l'ordre de tout l'argent que brasse et que produit l'économie mondiale. Actuellement, il y a des études chiffrées qui se portent sur les États-Unis, sur les services rendus par notamment les insectes à l'agriculture américaine et le coût qu'aurait la disparition totale des insectes pour l'agriculture américaine. C'est du même ordre d'affolement. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est dans une 6e extinction de masse. C'est-à-dire que le vivant s'effondre de manière systémique. C'est tout l'ensemble, c'est pas simplement quelques espèces qui disparaissent, ça et là, sans conséquence pour les autres. C'est vraiment toutes les interactions du vivant qui sont en train de s'effondrer. La France a perdu un tiers de ses oiseaux des campagnes entre 1988 et 2018. Au niveau mondial, on a 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 40% des amphibiens qui sont menacés, avec des échelles à peu près semblables en Europe et même partout dans le monde. Or, tout cela forme une chaîne, et si les maillons de cette chaîne disparaissent, c'est toute la chaîne qui s'effondre, tout le système qui s'effondre. Et donc, oui, bien sûr, il y a l'amour des petites bêtes, comme certains disent en caricaturant, qui sous-tend notre engagement et nos observations, mais on entend parfois, et notamment pendant cette campagne présidentielle, que ce que veulent les Français, c'est manger, vous les écolos, vous commencez à nous embêter. Mais en fait, si la biodiversité disparaît, on n'aura plus rien à manger, tout simplement.
Vous considérez, vous, comme une écologiste, comme on l'entend aujourd'hui, effectivement, on est en période électorale, on voit que tout ce qui a trait à l'écologie semble effectivement monter. Vous, aujourd'hui, vous considérez que vous êtes une écologiste ou vous n'aimez pas cette case ?
J'aime beaucoup cette case au sens où, ben déjà, je suis sensible à tout ce qui est forme d'engagement. Et je considère en fait mon engagement écologique comme un engagement qui découle de la science. Si j'ose dire, je pense qu'il faut distinguer l'écologie et l'écologisme, et je me revendique des deux. L'écologie, c'est-à-dire faire de la science écologique, la science qui étudie les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Et par la force des choses, de plus en plus, l'écologie se fait militante. Je veux dire, c'est par là que ce sont les chercheurs en écologie eux-mêmes, ce sont les associations elles-mêmes qui collectent des données qu'ensuite les chercheurs étudient, qui alertent pour dire non, ce n'est pas une vue de l'esprit, nous devons agir en urgence. Du coup, je n'oppose pas science et militantisme parce que ce sont les données qui nous poussent à agir. Et en fait, je trouve ça noble d'agir, je trouve ça noble de militer pour une cause, parce que la manière dont je conçois ma foi chrétienne, ce n'est pas d'être en retrait du monde, c'est de s'engager sur les sujets qui nous concernent dans le monde. Et en tant que chrétienne, je me dis que si Dieu est venu s'incarner, est venu habiter le monde qu'il a créé, déjà s'il a créé le monde, mais si en plus il est venu l'habiter, ce n'est pas pour que les chrétiens, 2000 ans après, se désintéressent de tous les sujets qui concerne le monde qu'il a créé, que ce soit les êtres humains ou les êtres vivants non humains.
Pendant des années, des dizaines d'années même, l'Église avec un grand E semble s'être complètement désintéressée des questions écologiques avant d'y revenir petit à petit. Depuis quelques temps, on a même vu des labels Église verte sortir un petit peu, qui justement œuvrent pour la biodiversité auprès des églises. Pour vous, il y a un lien fort, on l'a entendu, entre votre engagement écologique et votre foi. Comment est-ce qu'on peut essayer de susciter cet engagement auprès des chrétiens et de leur dire « Réveillez-vous, finalement, notre maison brûle », pour reprendre une expression qu'on connaît ?
Votre question me fait penser à une remarque qu'un ami nous a faite il y a 15 jours, à la fin d'une de nos conférences. Il nous a dit « Ce qui me gêne un peu, c'est que les chrétiens envisagent souvent l'écologie comme d'autres sujets sous l'angle de la théologie morale, une suite de comportements à adopter, une sorte de doctrine qu'on suivrait un peu par obéissance, et trouver ça triste. » Et en fait, je suis assez d'accord avec lui. Bien sûr, il faut qu'on agisse, mais je pense qu'il faut d'abord une conversion entière pour réaliser à quel point nous sommes, en tant qu'êtres vivants, insérés et partie prenante des écosystèmes en tant qu'être humain, en tant que chrétien, inséparable des autres espèces dans le dessein créateur de Dieu. Et là, ça veut dire que ça doit être toute notre vie de foi qui en est irriguée. Ça ne doit pas être uniquement une question de bonnes œuvres qu'on fait un peu pour se donner bonne conscience, c'est-à-dire qu'on participe. Je suis très touchée par le chapitre 8 de la lettre aux Romains, où il est dit que toute la création souffre et gémit en attendant la révélation des fils de l'homme. Je n'ai plus la formulation exacte en tête, mais clairement, Saint Paul associe la création au dessein rédempteur de Dieu. Et si toute notre vie de foi était irriguée de cette croyance, si toute notre vie de foi, quelle que soit notre confession chrétienne, était irriguée de notre credo, de notre symbole de foi que nous partageons tous, je crois en Dieu créateur, on se réajusterait et on n'envisagerait pas notre engagement écologique comme un énième devoir moral de plus parmi tous les lieux que les chrétiens sont appelés à habiter.
L'écologie, la biodiversité, même le climat d'ailleurs, c'est pas juste des règles à respecter, ça va au-delà de ça, c'est un mode de vie.
C'est ça, et j'ajoute aussi que si on entre dans cette dynamique, dans cette vision des choses, ça peut permettre de vivre un peu plus joyeusement, ou du moins avec plus d'espérance, tous les engagements, parce que les effondrements écologiques devraient nous appeler à des changements forts, à des changements de mode de vie au niveau personnel, au niveau communautaire et collectif, mais aussi au niveau politique, au niveau d'organisation des sociétés. Mais si on est porté par un sens que nous, chrétiens, mettons dans notre foi en Dieu et dans notre foi en un Dieu créateur et incarné, si nous sommes portés par ce sens, il nous sera plus facile de vivre les difficultés qui nous attendent, de vaincre les réticences qui peuvent nous attendre face à ce changement de vie, que si nous n'avons aucune espérance.
Vous dissociez, vous, la biodiversité et le climat. Pour vous, c'est deux choses bien différentes. Les deux sont malgré tout en interaction quand même.
Alors, les deux sont à la fois distincts et en interaction. Distincts parce que ce sont des causes différentes qui font s'effondrer la biodiversité et le climat. Par exemple, quand on parle d'énergie neutre en carbone par rapport au climat, il ne faut pas oublier que certaines installations peuvent avoir des conséquences sur la biodiversité, peuvent couper des connexions écologiques, c'est-à-dire des connexions qui relient les milieux entre eux, leur permettent d'échanger des gènes et permettent aux espèces de survivre. Et donc, en fait, si on sauve le climat au prix d'actions néfastes pour la biodiversité, on n'aura rien gagné. Si le climat s'effondre mais qu'on ne sauve pas la biodiversité, l'humanité est malgré tout en danger. Néanmoins, une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il y a quand même un lien. Et ce lien fondamental, il est dans le rapport que l'homme a à la nature, à la création, au monde dans lequel il vit. Le lien, c'est que ce soit pour le climat ou pour la biodiversité, on a cru pendant longtemps qu'on pouvait agir sans que ça ait de conséquences sur la nature et que finalement, la nature allait s'en remettre. On sait aujourd'hui que, aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, ce n'est pas le cas. Ça a conduit à des actions qui ont des mécanismes encore une fois bien distincts pour le climat et pour la biodiversité, mais sur le point de regard que nous devons tous avoir, cette conversion, elle concerne aussi bien que le climat que la biodiversité, elle concerne aussi toutes les questions de pollution, qui sont un problème dans de très nombreux pays, à commencer dans les pays occidentaux et même européens. Donc c'est un changement de regard global sur le monde dans lequel nous vivons, parce que c'est ce regard nocif et pas bien ajusté qui a conduit aux catastrophes où nous en sommes.
Quelles actions, par exemple, qu'on pourrait mener en faveur du climat, par exemple d'opération neutre en carbone, pourraient être par contre nocives pour la biodiversité?
Je pense par exemple à des éoliennes mal implantées ou mal conçues. L'éolienne, c'est un débat très complexe, parce qu'il y a des éoliennes qui aujourd'hui prennent en compte l'impact sur la biodiversité, leur visibilité par les oiseaux, par les chauves-souris, par toute la vie faune qui est susceptible de venir s'écraser sur la biodiversité. Une éolienne dans un couloir migratoire où passent en migration des oiseaux dont la population générale est déjà en mauvais état, ça peut être une catastrophe pour la biodiversité. C'est l'exemple le plus commun qu'on donne. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'éolien par principe. Ça veut simplement dire que chaque fois qu'on installe une source d'énergie qui est bonne pour le climat, il faut aussi poser la question de l'impact écologique et de l'étudier, et l'étudier à la fois en général et à la fois sur le lieu concerné. Il y a des études d'impact sur chaque projet, que ce soit pour le climat ou autre. La biodiversité, en fait, c'est un ensemble de mailles, un peu comme les rivets de la Tour Eiffel. On a l'impression que si on détruit un dans un coin, ben c'est pas bien grave. Là, ce champ d'éoliennes, il est pas très grave, les oiseaux pourront passer ailleurs. Et en fait, il y a déjà tellement de rivets qui sont rouillés et qui ne soutiennent plus l'ensemble, que si on en fait sauter un, ça et là, l'ensemble s'effondre, même si nous, on ne le voit pas. La biodiversité, c'est aussi quelque chose qui s'évalue à l'échelle locale, si je veux dire. Chaque projet local doit être considéré par rapport à son impact sur la biodiversité globale.
Finalement, comment faire pour allier à la fois la lutte pour la sauvegarde du climat et pour la biodiversité?
Je n'ai pas vraiment de solution technique, étant donné que je suis pas spécialiste au niveau technique. Le spécialiste de ces questions techniques, c'est plus mon mari. Mais par contre, ce que je sais, c'est que les chrétiens peuvent agir, eux, à leur échelle, pour la biodiversité. Les communautés chrétiennes qui sont en ville et qui ont des espaces qu'on qualifie de verts ou des bâtiments, déjà mieux entretenir ces espaces verts, ne pas tondre, se débarrasser de l'idée du gazon ras, mais au contraire, faire en sorte que ça soit un lieu de diversité de plantes qui pourront accueillir des insectes, qui pourront accueillir des oiseaux. Poser des nichoirs aussi, en concertation avec des associations de protection de biodiversité. Pour les églises où il y a des bâtiments en forme de clocher, se tourner vers des associations spécialistes des chauves-souris, car ce sont des bâtiments très appréciés des chauves-souris. Or, les chauves-souris sont une population très menacée, elles aussi. Comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais en fait, si tous ceux qui ont un endroit qui peuvent rendre accueillant pour la biodiversité le font, eh bien, ça va permettre de reconstituer une chaîne de ressources et de gîtes pour la faune, qui sera très appréciable. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des nichoirs, il faut aussi que les oiseaux, par exemple, utilisent ces nichoirs et à manger. Il faut le gîte et le couvert. Le gîte, sans le couvert, ça ne sert à rien. Et c'est là que les chrétiens, au niveau individuel ou collectif, peuvent aider. Et pour ça, ils peuvent se tourner, par exemple, vers la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a un programme de refuge LPO, et qui accompagne en fait, qui donne des guides, qui donne des conseils, qui accompagne et fait entrer dans un réseau, de sorte à ce que chacun puisse s'inspirer des bonnes actions les unes des autres. Et au niveau chrétien, les conseils donnés par la LPO pour la biodiversité ont été repris et intégrés dans les recommandations biodiversité du label Église Verte, ce qui fait que la biodiversité est un des axes qui est proposé aux communautés chrétiennes qui souhaitent demander le label Église Verte.
En matière d'écologie, la foi chrétienne évoque souvent ce qu'on appelle l'écologie intégrale. De quoi s'agit-il ?
Il y a de nombreuses définitions de l'écologie intégrale aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un peu tendance à revenir sur ce terme qui peut être facilement récupéré. L'écologie intégrale, c'est considérer l'ensemble du vivant dans sa dignité, à la fois l'homme et les autres espèces, et au niveau de l'homme, considérer son respect de sa conception à sa mort naturelle. Mais ça passe aussi beaucoup, on insiste beaucoup sur tout ce qui se passe entre la naissance et le stade de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très sociale à l'écologie intégrale, qui est l'attention aux plus pauvres, aux plus précaires, aux périphéries, en quelque sorte, tous ceux que notre société laisse de côté. L'écologie intégrale, c'est comme ça que je le vis, ce n'est pas de l'écologie environnementale et un peu de bioéthique. Non, il y a vraiment une dimension sociale en plus des questions bioéthiques, en plus des questions environnementales, ce qui fait qu'on envisage toutes les interactions que l'homme a dans sa vie, tous les moments aussi pour être en difficulté. Et malheureusement, des frères et sœurs humains qui sont en difficulté durant leur vie, il y en a beaucoup. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que François d'Assise était attentif à la fois à la création et aux pauvres. Pour lui, il ne pouvait pas dissocier les deux et ça m'inspire beaucoup.
Oui, finalement, ce qu'on comprend, c'est que dans votre combat, il n'y a pas que l'écologie, il n'y a pas que la biodiversité, c'est vraiment un tout. C'est la vie que vous défendez et quand on défend la vie, on doit défendre la biodiversité.
Tout à fait. Il y a un slogan que j'avais lancé de manière un peu provocatrice il y a quelques années, autour d'une marche pour la vie lors de Bisbille avec certaines personnes de ma connaissance, où je disais « soyons pro-vie, sauvez les chauves-souris ». De fait, la question que je pose souvent, c'est « à quoi ça sert de faire en sorte qu'un enfant vienne au monde si, quand il vient au monde, il n'a rien à manger, il n'a pas d'air pour respirer, ou alors il naît dans un air pollué ?» La biodiversité, c'est ce qui fait que les enfants qui naissent aujourd'hui, qui naîtront demain, pourront ou ne pourront pas vivre. Comme le climat. Mais toutes les questions qu'on appelle environnementales, en fait, concernent l'homme parce qu'elles concernent la possibilité biologique qu'a l'espèce humaine de vivre sur Terre. Donc, en cela, ces questions ne sont pas séparables des questions bioéthiques ni des questions sociales. Ça forme un tout. Est-ce que l'homme peut vivre dignement sur Terre ? Et avec les effondrements écologiques en cours, la réponse pour les années à venir est, je suis désolée de désespérer les auditeurs, mais malheureusement non.
Est-ce qu'on peut quand même avoir des raisons d'espérer, de se dire que si on met des enfants au monde, c'est pas pour qu'ils voient la déchéance du monde ? Qu'est-ce qui peut nous donner des raisons d'espérer ?
Bonne question. Je dirais la solidarité déjà. C'est-à-dire que malgré tout, même si on vit dans un monde où un peu trop de personnes ayant les leviers en main se contrefiche de la crise écologique, on voit beaucoup d'initiatives de solidarité et c'est là-dessus que je compte beaucoup. C'est-à-dire qu'en s'engageant ensemble, en rencontrant et en construisant des initiatives communes, on ne pourra pas éviter de foncer dans le mur à toute vitesse, on ne pourra pas éviter le crash. Par contre, on pourra construire ensemble ce qui va nous permettre de l'absorber et de repartir, ce qui va nous permettre de limiter les dégâts de ces effondrements écologiques. C'est-à-dire que se rendre compte qu'au milieu de la crise, il reste il y a malgré tout des choses possibles, qu'on a les moyens d'agir, c'est pour moi un motif d'espoir. Après, si j'ose dire, le motif d'espérance, c'est la foi chrétienne. En alliant l'action et la foi, on ne réussira peut-être pas dans l'action, mais on habitera le monde où on est. On sera là. Ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de l'écologie en se disant « de toute façon, le monde sera sauvé à la fin des temps, donc bon, patientons un peu et de toute façon, tous les êtres vivants, humains ou non, qui mourront, auront leur récompense lors de la parousie. » Ça, on peut parfois le lire et l'entendre. Un peu moins maintenant, mais on l'a beaucoup lu et entendu à certains moments. Pour moi, il y a malgré tout une espérance dans la foi, au sens où je ne peux pas désespérer en raison de ma foi, pas totalement. C'est elle qui me porte dans les moments d'espoir et c'est elle qui me donne la force, justement, de construire cette solidarité avec des amis, qui soient croyants ou non, d'ailleurs. C'est elle qui me donne la force de ne pas tout laisser tomber et de me dire que, ben, oui, on va quand même arriver à construire quelque chose, mais que pour ça, il faut qu'on s'y mette vite, ensemble, et qu'on ne soit pas uniquement sur les incantations pieuses, mais qu'on utilise toutes les connaissances que la science nous donne aujourd'hui pour nous aider à construire un monde de demain. Le monde de demain sera peut-être un peu moins versé dans un certain nombre de technologies destructrices, mais par contre, il pourra s'appuyer sur les immenses progrès de la science. Ces 150 dernières années, ces progrès qui continuent chaque jour, et qui nous donne des solutions pour agir face au changement climatique et face à l'extinction de la biodiversité.
Merci beaucoup, Mao Herman. On rappelle que vous êtes engagé auprès de l'association LPO Agir pour la biodiversité et vous avez écrit 2 livres avec votre mari sur le sujet, dont le dernier, le plus récent, Comprendre et vivre l'écologie, aux éditions de l'Emmanuel. Merci, Mao.
Merci.
Phare FM Lyon Dauphiné. 107.